Bon, à partir de là, je sais plus comment te raconter les choses, comment te les présenter. Si je rentre dans le détail de tel ou tel événement, ou si je le survole, si j'accélère le film des faits eux-mêmes en faisant un zoom systématique sur ce que je ressens, ou si, au contraire, je te décris par le menu tout ce qui s'est passé. Mais avant tout, je voudrais quand même savoir si je te prends pas trop la tête. Je parle. Là, mais comme tu me dis rien, impossible de savoir ce qui t'intéresse et t'intéresse moins dans tout ce que je raconte. Impossible de savoir si tu m'écoutes par politesse en rongeant ton frein ou si tu t'identifies réellement à ce que je dis de moi, bien que ce ne soit pas ton problème. Parce que c'est un risque de prendre la parole, surtout si l'on parle de soi. On n'a aucune distance sur les faits qu'on peut produire. Et si ça se trouve, tu n'en as rien à taper de mes états d'âme. Bon, je sais pas, moi. Bon. Alors, dans le cercle flou de la lentille, la silhouette bougeait à peine, sans tête. Une portion de peau zoomée à contre-jour. Ce corps, d'une année sur l'autre, avait changé peu à peu sous les vêtements. Et maintenant, il explosait dans les jumelles, dans l'été. De loin, l'œil grignotait les détails. La bride du maillot, le triangle du bas, un filament d'algues sur la hanche. Les muscles tendus au-dessus du genou, la courbe du mollet, la cheville où le sable colle. L'œil s'ouvrait plus grand, devenait rouge à sonder cette lentille. Le corps adolescent bondit hors champ et se jeta dans l'eau.
Un instant après, objectif repositionné, mis au point fait, il reparut. Avec cette chevelure blonde magnifique et ce rire si violent que même à cette distance, même juste à le voir, ça t'électrisait, comme si tu y pénétrais réellement entre ses dents blanches et les fossettes sur les joues et la cavité entre les omoplates et le creux du nombril et tout le reste. Elle s'amusait comme à son âge, ignorant qu'on l'observait. Sa bouche était ouverte. Qu'est-ce qu'elle peut bien dire ? Et à qui ? Elle piqua une tête dans une vague, émergea de l'eau, le soutien-gorge tout de travers, une piqûre de moustique sur l'épaule.
Je passais l'après-midi seule sur la plage, plongée dans une méditation ardente. Pour la première fois, une jeune fille me soufflait un désir identique à celui qui flottait en moi depuis des années. Cela me permettrait de conserver intact le capital de notre amour naissant et de ne pas faillir à ma résolution de demeurer fidèle. Il me faudrait alors mettre dans mon esprit un principe de retenue qui entraverait constamment mes élans. Mais je savais ma volonté incertaine. Si je continuais de faire la cour à cette fille, ma détermination serait forcément frappée d'hésitation fatale. Comment contredire toujours les envies furieuses qui m'assailleraient lorsque je subirais le magnétisme de sa présence ? Tôt ou tard, et peut-être plus tôt que je ne l'imaginais, je succomberais à la tentation de satisfaire mes sens. Je la retrouvai à l'hôtel à la tombée de la nuit. Elle arriva, moulée dans un ensemble de dentelles blanches qui soulignait la perfection de ses formes. Elle n'était pas de ces femmes tout en creux qui désespèrent la main. Elle possédait des modelés pleins et ronds sans qu'on pût l'accuser de s'être laissé envahir par l'embonpoint.
Alors je croyais, nous vivions heureux, tout au long temps ensemble,
Parfois nous étions d'accord, l'autre fois nous ne le sommes pas. L'un dessus l'autre, l'autre dessous, se touchant et fondant ensemble de temps en temps, ou encore distincts, totalement et divergents, mais de toutes les façons, se tournant et tourbillonnant entre nous, au-devant et derrière, en un épatant et délicat concert.
T'as envie de la connaître, la suite ? Tu ne préfères pas aller te coucher ? T'es sûr ? Bon, d'accord. Alors, je continue. Quant à ma façon de raconter, on verra bien. Ça vient comme ça vient, et je te le sers comme tel, sans filtre. C'est plus simple. Bon, si tu en as marre, tu me fais signe et j'arrête. Ok ?
Elle voit où elle est. Sans savoir comment, ses jambes en courant l'ont conduite jusque devant l'immeuble où elle habite. Elle lève les yeux. Elle cherche les fenêtres de l'appartement où il y a son père, sa mère et sa petite sœur. Il y a déjà 5 mois qu'ils habitent là. Mais elle doit toujours regarder aussi longtemps avant de reconnaître les 3 fenêtres, à côté de celle où il y a les pots de géranium. Les 2 fenêtres de la grande chambre sont éclairées, parce que c'est là que son père est assis dans son fauteuil, en train de regarder la télévision en mangeant. Elle monte les marches de l'escalier, elle pousse la porte d'entrée de l'immeuble, elle met la main sur le bouton de la minuterie. Alors, elle les voit. Ils sont là qui l'attendent, tous, avec leurs blousons de vinyle noir et leurs casques aux visières rabattues qui luisent dans la lumière de l'escalier. Elle ne peut pas crier, parce que quelque chose se bloque dans sa gorge et ses jambes ne peuvent plus bouger. Ils se sont approchés. L'un d'eux, un grand, qui a un blouson d'aviateur et un casque orange avec une visière en plexiglas fumé, s'approche tout près d'elle. Il la prend par le bras. Elle cherche à se dégager, elle ouvre la bouche, elle va crier. Alors il la frappe de toutes ses forces, avec son poing, dans le ventre, là où le corps se plie en deux et la respiration s'arrête. Il l'entraîne vers la porte qui est à côté de l'ascenseur et il descend de l'escalier de ciment qui résonne. On entend les bruits des téléviseurs au rez-de-chaussée, les bruits de la vaisselle, les cris des enfants. Sous terre, la lumière est grise. Elle vient de 2 ou 3 ampoules au milieu des tuyaux et des conduits d'égout. Ils ne disent rien. Ils ouvrent la porte. C'est une cave, à peine 4 ou 5 mètres carrés. Du ciment gris, des caisses, et par terre, il y a un vieux matelas. La cave est si petite qu'ils sont debout les uns contre les autres. Dehors, la lumière de la minuterie s'éteint, et il n'y a plus que la lueur de la bougie qui vacille. Les larmes coulent sur ses joues, barbouillent le rimmel et le fond de teint, elle claque des dents.
« Déshabille-toi !»
La voix du grand a résonné dans la cave étroite, une voix dure et rauque. Comme elle ne bouge pas, il se penche sur elle et il tire sur sa veste, déchire le col. Elle enlève sa veste, la pose par terre. Elle va à l'autre bout de la cave, tout près de la bougie, et elle ôte son tricot rayé. Elle défait la fermeture des bottes. Elle fait glisser son pantalon, puis son slip et son soutien-gorge. Elle grelotte nue dans le froid de la cave, l'air efflanqué et maigrichonne. Ses dents claquent si fort qu'elle sait qu'elle ne pourrait même pas crier. Elle pleure un peu, en geignant, et les larmes continuent à souiller ses joues de rimmel et de fard. Puis, le garçon s'approche d'elle. Il défait sa ceinture, il la pousse sur le matelas et s'étend sur elle sans ôter son casque. Les autres s'approchent et elle voit leur visage penché sur elle. Elle sent leur haleine sur sa peau. Interminablement, l'un après l'autre, il l'ouvre, il la déchire, et la douleur est si grande qu'elle ne sent plus la peur ni le froid, mais seulement le vertige qui se creuse en elle, qui l'écrase plus loin que son ventre, plus bas, comme si le matelas mouillé tombait au fond d'un puits glacé et noir, brisant ses reins. Cela dure si longtemps qu'elle ne sait plus ce qui s'est passé. Chaque fois qu'un garçon entre en elle, en forçant, la douleur grandit dans son corps et l'entraîne au fond du puits. Les mains écrasent ses poignets contre le sol, écartent ses jambes. Les bouches s'appliquent sur sa bouche, mordent ses seins, étouffent sa respiration. Puis la bougie tremble un peu plus et se noie dans sa cire. Alors, tout s'arrête.
Lorsqu'il entra dans la pièce, les autres officiers de police semblèrent reculer et disparaître de son champ de vision. Il ralentit une seconde. Rien ne ressemblait aux morts, rien au monde. Les vivants et les morts étaient séparés par des années-lumière. Cette fois encore, comme toujours, et malgré les innombrables cadavres qu'il avait vus, Miller crut un instant que les yeux de la victime allaient s'ouvrir, qu'il y aurait une expiration, voire une grimace de douleur, un vague sourire, quelque chose qui dirait « Me revoilà, c'est moi. Désolé, je m'étais absenté un petit moment. » Ce n'était pas la première fois, bien sûr, mais quelque chose de la première fois était resté gravé en lui pour toujours. Quelque chose qui lui glaçait le cœur pendant une seconde, moins d'une seconde, et qui signifiait « Voilà ce que les gens sont capables de faire à d'autres gens. » Voilà un nouvel exemple de la manière dont la vie d'un être humain peut éclater en mille morceaux. La première chose frappante chez cette femme était le caractère anormal de sa position. À genoux, les bras en croix, la tête contre le matelas, mais tournée de telle sorte que sa joue reposait sur le drap en dessous. Un deuxième drap avait été négligemment enroulé autour de sa taille et dissimulait la quasi-totalité de ses jambes. Elle semblait regarder derrière elle, derrière son propre corps, en direction de la porte. La position était sexuelle, mais cette femme n'avait plus rien de sexuel. La seconde, c'était l'expression de son visage. Miller aurait été incapable de la décrire. Même après s'être agenouillée par terre, l'avoir regardée bien en face, tout près, et vu son propre visage se refléter dans l'immobilité vitreuse de ses yeux, il lui était quasiment impossible de dire ce qu'il y lisait. Une acceptation, une résignation, un consentement peut-être. Tout cela contrastait avec la violence incroyable des contusions qui couvraient ses épaules et ses bras. À partir du cou, le peu qu'il voyait de sa taille et de ses cuisses montrait qu'elle avait été frappée sans pitié ni répit, avec un acharnement tel qu'elle n'aurait jamais pu survivre. Déjà, le sang avait arrêté de circuler et la tumescence avait gonflé à mesure que les fluides s'étaient épaissis et figés. La douleur avait dû s'éterniser et puis soudain cesser, comme un silence béni après un fracas interminable.
Tout de suite après mon arrestation, j'ai été interrogée plusieurs fois. Mais il s'agissait d'interrogatoires d'identité qui n'ont pas duré longtemps. La première fois, au commissariat, mon affaire semblait n'intéresser personne. 8 jours après, le juge d'instruction, au contraire, m'a regardée avec curiosité. Mais pour commencer, il m'a seulement demandé mon nom et mon adresse, ma profession, la date et le lieu de ma naissance. Puis, il a voulu savoir si j'avais choisi un avocat. J'ai reconnu que non, et je l'ai questionné pour savoir s'il était absolument nécessaire d'en avoir un. Pourquoi ? A-t-il dit. J'ai répondu que je trouvais mon affaire très simple. Il a souri en disant « C'est un avis, pourtant la loi est là. Si vous ne choisissez pas d'avocat, nous en désignerons un d'office. » J'ai trouvé qu'il était très commode que la justice se chargeât de ces détails. Je lui ai dit, il m'a approuvé et a conclu que la loi était bien faite.
L'homme le plus honnête, le plus respecté, peut être un jour victime de la justice. Vous êtes un bon père, un bon époux, peu importe. Quelle fatalité pourrait un jour vous faire passer pour un malhonnête homme, voire un criminel ? Cette fatalité existe. Elle porte un nom. L'erreur judiciaire. L'erreur judiciaire consiste en la condamnation d'un innocent ou en l'acquittement du véritable auteur de l'infraction.
pour la troisième fois. J'ai refusé de recevoir l'aumônier. Je n'ai rien à lui dire. Je n'ai pas envie de parler. Je le verrai bien assez tôt. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. On m'a changé de cellule. De celle-ci, lorsque je suis allongée, je vois le ciel et je ne vois que lui. Toutes mes journées se passent à regarder sur son visage le déclin des couleurs qui conduit le jour à la nuit. Couchée, je passe les mains sous ma tête et j'attends. Je ne sais combien de fois je me suis demandé s'il y avait des exemples de condamnés à mort qui eussent échappé au mécanisme implacable, disparu avant l'exécution, ont rompu les cordons d'agent. Je me reprochais alors de n'avoir pas prêté assez d'attention au récit d'exécution. On devrait toujours s'intéresser à ces questions. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme tout le monde, j'avais lu des comptes rendus dans les journaux, mais il y avait certainement des ouvrages spéciaux que je n'avais jamais eu la curiosité de consulter. Là, peut-être, j'aurais trouvé des récits d'évasion. J'aurais appris que dans un cas au moins, la roue s'était arrêtée. Que dans cette préméditation irrésistible, le hasard et la chance, une fois seulement, avaient changé quelque chose.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et d'après l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ou ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, vient sur ma bouche. Amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Cette nouvelle a été composée par le trio Lecture Nomade à partir d'extraits de, par ordre d'apparition dans les lectures, J'étais derrière toi de Nicolas Fargue, D'acier de Sylvia Avallone, Fanfan de Alexandre Jardin, Carambole de Alexander Dicot, La ronde et haute fée d'hiver de Jean-Marie Gustave Le Clésio, Les anonymes de Roger Jaune et Laurie, L'étranger de Albert Camus. La chanson était de Étienne Dao sur des paroles de Jean Genet.